Chérie, fais-moi peur, une thématique antenne jusqu'au 7 mars sur les 3-8.
You have a dirty mind.
Je viens de traverser une période de solitude et d'angoisse qui m'a semblé interminable, et c'est seulement aujourd'hui que je trouve à nouveau quelque chose à dire. Le vide de mon cœur était devenu le réceptacle de tous les doutes. Et pour occuper mes pensées, je m'étais assigné ces derniers jours la tâche d'explorer minutieusement les environs du château. Je pensais que cela pourrait calmer la douleur causée par une impression de solitude que j'éprouvais grandissante, même si je savais qu'au terme de l'exploration, je n'en saurais pas forcément plus au sujet de celle dont j'étais devenu follement amoureux. Mes recherches devinrent rapidement systématiques, car je voulais qu'elles fussent exhaustives. Je décidai de procéder par bandes, à partir du château, en commençant au sud, et en progressant ensuite vers l'est et le nord. Le premier jour, je n'atteignis que la crique, que je traversais dans un bateau pour rejoindre l'autre rive, située au pied de la falaise. Les falaises méritaient à elles seules une visite. Il y avait ça et là des entrées de grottes que je résolus d'explorer plus tard. Je réussis à grimper là où la pente était la moins escarpée et poursuivis mes investigations. Mais bien que l'endroit fût magnifique, il n'y avait là rien de vraiment intéressant. Le jour suivant, je me dirigeai un peu plus à l'est. Je n'eus pas de mal à trouver mon chemin car, après avoir traversé la crique, je me trouvais au pied de la falaise sur laquelle la vieille église Saint-Sava avait été érigée. Elle s'élevait devant moi, imposante et mystérieuse. C'était là que depuis des générations, les nobles des grandes familles des Montagnes Bleues, dont les Vissarions, se faisaient enterrer. Je pus constater également que les entrées des nombreuses grottes dans la falaise étaient quelquefois très larges. Je remarquai que quelques-unes débouchaient directement sur la mer. Il me fut impossible d'escalader la falaise à cet endroit, et je dus faire un long détour en longeant la crique, jusqu'à une plage d'où je pus commencer mon ascension. En montant, je m'aperçus que j'étais exactement entre le château et les montagnes. Je voyais l'église à ma droite, au bord de la pique. J'étais impatient de la découvrir. Jusqu'alors, mes excursions s'étaient limitées au château, à ses jardins et à ses proches environs. Le style de cette église ne m'était pas familier. Elle comportait quatre ailes aux quatre points cardinaux. Le portail principal, surmonté d'un magnifique fronton richement sculpté et probablement très ancien, était situé à l'ouest, de sorte qu'en entrant, on allait vers l'est. À ma grande surprise, je trouvai la porte ouverte. Elle était plutôt, à vrai dire, seulement entrouverte. Mais elle permettait à qui le voulait d'entrer facilement. Après avoir traversé un vestibule, qui ressemblait plus à un couloir qu'à une véritable entrée, je continuai et passai une grande porte donnant accès au corps de bâtiment qui semblait presque circulaire tant il était vaste. Il y faisait étrangement sombre, car les ouvertures de petite taille et situées très haut étaient en fait des vitraux aux couleurs froides, dont les bleus ou les verts. Chacun d'entre eux avait un ton différent et était taillé dans un verre très ancien, probablement du XIIIe ou du XIVe siècle. Certains ornements étaient d'une grande richesse et d'une merveilleuse beauté. Ce qui m'étonna, car cet endroit, ouvert à tous et désert, m'avait tout d'abord paru abandonné. Il y régnait un étrange silence, aussi étrange qu'inattendu, même pour une vieille église située sur un promontoire solitaire. Bien qu'habitué aux endroits les plus insolites, je fus saisi par la lugubre solennité de ce lieu qui était abandonné, certes, mais nullement négligé, comme le sont la plupart des antiques églises. Pas un grain de poussière. Étrange. Je n'y décelais aucun indice pouvant me guider dans ma recherche de la dame au linceul. Il y avait des sculptures à profusion, statues, autels, stèles diverses à la gloire des morts. Les noms de famille et les dates que je lus me laissèrent perplexe. J'y retrouvai le nom des Vissarions et je parcourus les inscriptions qui s'y rapportaient avec attention afin d'en tirer éventuellement le maximum d'éclaircissement. En vain. Il n'y avait rien à voir dans l'église proprement dite. Je décidai donc de visiter la crypte. Je n'avais ni lanterne, ni bougie. C'est pourquoi je dus retourner au château pour m'en procurer. Leur fragile lueur artificielle contrasta avec la vivacité du soleil qui brillait à l'extérieur. Quand j'étais entré dans l'église, la première fois, j'avais été tellement saisi par l'étrangeté du lieu et par mon avidité à trouver des indices que je n'avais pas observé les détails. En revanche, il me devenait maintenant nécessaire pour trouver l'entrée de la crypte. Le pauvre éclat de ma lanterne ne suffisait pas à dissiper les ténèbres. Je dus éclairer séparément chaque recoin sombre. Je trouvais enfin, caché derrière une grande tenture, un escalier étroit qui semblait descendre dans le rocher. Ce n'était pas un passage secret, mais comme son accès était masqué, on ne pouvait le voir qu'une fois tout près. Au fur et à mesure que je descendais le vieil escalier en colimaçon, je me sentis envahi par un sentiment de désespoir et d'immense solitude. Les marches étaient nombreuses et elles avaient été grossièrement taillées dans le roc sur lequel reposait l'église. Quelle surprise de trouver la porte de la crypte ouverte! Il n'est pas étonnant que l'on ait pour coutume de permettre à tous ceux qui le souhaitent d'entrer et de trouver le repos et le réconfort dans un endroit sacré, mais je me disais que les sépulcres des morts les plus célèbres du pays auraient pu être mieux protégés. Je ressentis, bien qu'étranger au pays, quelque chose en passant la porte. La crypte était étrangement spacieuse. Je déduisis de sa forme qu'il s'agissait d'une grotte qui avait été aménagée et transformée. De l'eau coulait quelque part, non loin de là. De temps en temps, à intervalles irréguliers, on entendait un bruit sourd et massif, sans doute celui d'une vague se brisant sur les rochers qui servaient de soubassement à la cavité. Je me souvins alors que l'église était construite au bord de la falaise et que j'avais vu des ouvertures au niveau de la mer. Avec la faible lueur de mon falot pour guide, je fis le tour du lieu. Il y avait de nombreuses tombes monumentales, quelquefois en marbre, mais la façon dont elles avaient été taillées révélait qu'elles étaient toutes anciennes. Quelques-unes étaient si imposantes et si massives que je me demandais comment elles avaient pu être amenées jusque-là. La seule entrée paraissait être ce tortueux escalier par lequel j'étais arrivé. Finalement, je remarquai une chaîne suspendue, de grande taille, qui pendait à l'une des extrémités de la crypte. En orientant ma lanterne vers le haut, je découvris alors qu'elle était attachée à un énorme anneau suspendu au-dessus d'une large excavation artificielle. Ce mécanisme avait dû permettre l'installation des plus grands sarcophages. À l'aplomb de la chaîne, dont l'extrémité se situait à environ 3 mètres du sol, il y avait une tombe de grande dimension, recouverte par une épaisse plaque de verre posée sur deux grosses poutres de chêne. De chaque côté de la tombe, une planche reliait les poutres au sol, de sorte que si l'on avait voulu l'ouvrir, il aurait suffi de faire glisser la plaque. Naturellement, je fus curieux de voir ce qu'abritait un si étrange tombeau. Je levai la lanterne et l'inclinai. Je poussai un cri et reculai violemment avant de lâcher la lanterne, qui retomba avec fracas sur le verre. À l'intérieur du coffre reposait, sur d'épais coussins, enveloppé dans un manteau de laine et de fils d'or finement travaillés, le corps d'une femme qui n'était autre que ma belle visiteuse. Elle était blanche comme le marbre et ses longs cils noirs ourlaient ses joues d'opale, comme si elle avait été endormie. Je remontai l'escalier, pétrifié, et traversai l'église dans l'obscurité. Je courus pour retrouver le plus vite possible la lumière du soleil, me rendant seulement compte alors que j'avais machinalement récupéré la lampe et que je l'avais emportée dans ma fuite. Mes pieds me dirigèrent instinctivement vers le château. Ce degré supplémentaire dans l'horreur avait noyé mon esprit dans les profondeurs d'un mystère sans nom. Tout cela dépassait les bornes de l'imagination. La Dame au Linceul, Bram Stoker.